Vous êtes dans le show Wake Up avec Ismaël Trépanier sur cette radio canadienne, le www.rockick.com. Wake Up le matin de 8h à midi. Bienvenue sur la planète rockick.com. C'est le cas de le dire parce que, vous savez, dans le fond, avec les joies d'Internet, c'est qu'on peut plus facilement accéder d'une certaine façon, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais au savoir. Oui, parce que les joies de l'électronique, les joies de cette technologie-là, c'est de savoir autant d'avoir une bonne idée, je devrais dire, tant du côté européen, ce qui se passe, que de notre côté canadien, bien sûr. Alors, bienvenue sur la planète rockick.com, je peux le dire maintenant. C'est une façon de le dire, c'est une façon de parler, bien sûr. Alors, en ce moment, on a au bout du fil Madame Marie-Thérèse Urvoy, professeure, justement, qui enseigne l'histoire arabe et médiévale et l'arabe classique à l'Université catholique de Toulouse. Et pour ce faire, on va aller la joindre tout de suite. Bonjour, Madame Urvoy.
Bonjour, Monsieur Trépanier.
Comme je vous le disais, bon début d'après-midi ou bon après-midi.
Comme vous voulez. C'est bonjour aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Le sujet aujourd'hui que l'on va aborder, bien sûr, je vous laisse le développement parce que vous êtes l'experte. Allez, on se lance, c'est parti. On vous écoute, Madame Urvoy.
Ben écoutez, comme je vous disais, je vous propose aujourd'hui de vous parler du rapport de la Oumma au jihad et à la cité islamique. Et j'espère que j'aurai le temps de faire le tout, mais cela, j'ai pensé, pourrait nous aider à mieux comprendre les difficultés de l'islam en Occident. Donc, comme vous savez, lorsque Mahomet commença sa prédication, il se présenta comme le successeur des grands prophètes antérieurs et également le sceau de la prophétie, tout en revendiquant évidemment l'héritage biblique et évangélique, depuis Adam jusqu'à Jésus.
Ok.
Il affirmait en plus restaurer le message biblique dans toute son intégrité, si on veut remonter, si vous voulez, dans la genèse de cette problématique, en abolissant toutes les altérations commises volontairement par les descendants dégénérés des disciples de Moïse et de Jésus. Finalement, il va annexer Abraham comme ancêtre généalogique et comme fondateur avec son fils Ismaël de la Kaaba.
Ismaël ?
Oui, non, son fils Ismaël. Oui, c'est l'autre fils. C'est la, et en fait, c'est précisément pour la généalogie islamique,
oui.
C'est le fils Ismaël d'Abraham et non pas l'autre, celui de la Bible, qui est le cofondateur avec Abraham de la Kaaba elle-même.
Eh ben.
Donc tout cela est présenté, il présente ainsi l'islam comme insufflant à l'éternelle et immuable religion la pureté resplendissante qu'elle devait avoir au temps abrahamique. La voie était ainsi ouverte à la définition d'une nouvelle communauté. Voilà.
Okay.
En effet, depuis lors, les musulmans considèrent leurs prophètes et ceux qui le suivent comme les véritables disciples de Moïse et de Jésus, tandis que les juifs et les chrétiens de tous les temps n'ont plus aucun droit à se réclamer de leurs prophètes et de leurs révélations respectives, car ils y ont été infidèles, et ils l'ont même falsifié.
Ils l'ont falsifié, voilà. Ok.
Tout ça, c'est dans le Coran, c'est-à-dire et l'accusation de la falsification, et également l'aspect de l'infidélité au texte fondateur des deux communautés, et les juifs et les chrétiens. En fait, quel est l'impact concret de cet événement? Il faut remarquer d'abord que la nouvelle prédication ne pouvait que réussir dans la mesure où elle correspondait fondamentalement à la sensibilité arabe. Le monothéisme était bien une rupture avec le polythéisme ambiant, mais dans le réflexe religieux de l'homme arabe païen, se convertir à l'islam ne devait pas constituer en fait un renversement capital, puisque cette nouvelle prédication répondait aux aspirations religieuses que ressentaient alors des hommes honnêtes dans l'Arabie dès lors, de cette époque.
Okay.
Donc, ainsi, du point de vue de l'éthique, les liens essentiels et innés qui unissaient les membres d'une même famille, comme dans toute société primitive proche de la nature, ont été repris et célébrés de façon appuyée dans l'islam. Et de fait, ce rôle de la famille, par exemple, n'a pas faibli encore de nos jours. Qu'y a-t-il eu alors de fondamentalement nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Puisque la disposition, la prédisposition des Arabes à recevoir un énième monothéisme était complet. L'événement historique et son contexte, conteste le remplacement du lien tribal et clanique par un nouveau lien de fraternité entre tous les musulmans. Première caractéristique de la nouvelle religion et d'une nouvelle société. L'islam générait d'une certaine manière une communauté, un ensemble qui se substituait aux multiples tribus par-delà toute autre valeur sociale ou affective. Donc cette communauté s'appropriait spontanément les réflexes psychologiques et usages propres aux tribus. Le Coran ne manque pas de rappeler en diverses formulations que les musulmans sont durs envers leurs ennemis, miséricordieux entre eux. Sourate 48, verset 29. Ce qu'un célèbre traditionniste des débuts de l'islam, un certain Al-Fudayl ibn Ayyad, traduisait ainsi. Le plus solide des liens de l'islam, c'est l'amour en Dieu et la haine en Dieu. Vous voyez ?
Ok.
Donc les circonstances qui sont à l'origine du concept de la Ummah dans la société musulmane sont résumées dans un document, qui se dit en arabe Sahifa, donc dans un document rédigé par Mahomet lui-même lors de son égire. Et il est connu sous le nom de la Constitution de Médine. Ce document, signalé plusieurs fois dans les corpus de hadith, est à situer dans la définition de l'islam des origines de la façon suivante. Et là, je cite un collègue et ami. Le ralliement ou la soumission à un pouvoir nouveau instauré par un prophète qui en définit les lois au nom de Dieu et dont les assises politiques sont appuyées sur une action militaire permanente. Cela est parfaitement rendu dans les récits appelés Marazi Rasulallah, c'est-à-dire les expéditions de l'envoyé de Dieu. Ceci est un élément principal de l'écriture sur l'histoire des débuts de l'islam. Donc, une des citations les plus anciennement transcrites de Mahomet est la suivante. « J'ai reçu l'ordre de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « point de divinité excepté Allah ». Celui qui dit « point de divinité excepté Allah » préserve de mon atteinte ses biens et sa personne. » de Médine a été rédigé par Mahomet lui-même pour asseoir les bases de sa confédération, de sa Ummah. La citation qui revient presque partout de façon récurrente et quasi obsessionnelle est celle qui traite de l'étroite solidarité entre les adhérents au mouvement contre ceux qui lui sont réfractaires. Vous voyez comment se constitue cette Ummah. Dans quelles conditions elle s'origine. Ainsi, à ce stade de la vie du prophète de l'islam, il n'y a pas encore d'État, mais une confédération guerrière.
Une confédération guerrière. Alors là, on s'entend, oui. c'est vraiment, on forme des soldats.
Vous allez voir comment ça s'organise. Que dit ce document ?
Okay.
Le paragraphe introductif est très significatif et je l'ai retenu pour vous ce matin.
Ah, mais donc, c'est gentil.
Quant à la nature du document et des groupes qui en sont partie prenante, voyez, il est écrit dans ce document, ceci est un écrit de Mohammed le prophète, établi entre ceux de Quraysh et des gens de Yathrib, devenus Médine à l'arrivée de Mohammed, qui se sont affidés et ceux qui les ont suivis et s'étant joints à eux, ont combattu avec eux, Ils sont une confédération unique à l'exclusion des autres hommes. Donc, voilà ce que dit ce document, cet écrit. Se déclarer prophète n'était pas chose nouvelle, vous savez, au Proche-Orient. Il semble que pour Mahomet, le modèle fut Moïse, perçu comme fondateur d'un peuple autour d'une loi. Une loi de Dieu et d'un objectif de conquête. Donc l'initiative qu'il prit en s'établissant à Médine d'écrire un texte qui puisse servir de pacte constitutif de son groupement s'inscrit dans cette logique. Donc, ainsi, il est dit dans ce document, chaque fois que survient un différend entre vous sur quoi que ce soit, l'affaire sera soumise à Dieu et à Mohammed. Si entre les gens de cette constitution survient un méfait ou un conflit dont on peut craindre une détérioration, on soumettra l'affaire à Dieu très haut et à Mohammed le prophète. Vous avez remarqué avec moi la présence du prophète toujours à côté de Dieu.
Exact.
Et même dans le Coran, lors d'une étude sur l'autorité du prophète et son rapport au pouvoir, eh bien, j'ai démontré qu'à un moment donné dans le Coran, eh bien, c'est le prophète d'abord, Dieu après. Donc, c'est...
Ok. Dans le fond, si j'ai bien compris, au départ, on dit toujours Dieu et moi, et le prophète. Et après ça, plus ça avance, plus le prophète va aller devant Dieu, dans le fond.
Eh bien, dans la pratique, il ne s'est jamais prononcé. On ne dit jamais « Ashhadu an la ilaha illallah » et on met Mohammed avant.
Okay.
Non. Mais dans les faits et dans le Coran, effectivement, il y a un verset qui parle de « Obéissez au prophète et vous m'obéirez alors ».
Ah,
vous suivez?
Okay. Oui.
Donc, ceci est reflète réellement le rapport du prophète au pouvoir. Donc, c'est Muhammad qui écrit le document. N'oublions jamais, tout de même, ce document, cette sahifa de Médine, est écrite par, établie par Mahomet lui-même, qui inspire et il avalise ces stipulations, qui donne également la permission, de fait, de partir en guerre, qui est l'arbitre des différends, le surveillant de toute détérioration éventuelle et de la cohésion de l'ensemble de sa Ummah, de son petit état pour le moment. Tout ceci en tant que prophète. Donc là, il y a une association entre la prophétie et le pouvoir. D'ailleurs, Dieu lui-même, dans le Coran, ordonne l'acceptation des arbitrages de son envoyé en même temps que l'obéissance à celui-ci. Je renvoie à la sourate 4, versets 60 et 65. Un mot-clé maintenant, ça c'est du côté du prophète. Qu'en est-il du côté des adeptes, des alliés, des partisans? Un mot-clé qui court à travers tous les documents de cette constitution de Médine est celui qui désigne les adhérents au mouvement de Muhammad. C'est le mot « mu'min », hein, pluriel « mu'minoun ». Okay. De nos jours, ce mot est traduit généralement par « croyant ».
Okay.
Ce qui induit effectivement un sens religieux,
oui,
individuel, restreint, tel qu'on le conçoit dans d'autres cultures. Or, la lecture objective dans le contexte du document, comme parfois dans celui du Coran révèle, dans le vocabulaire islamique, les connotations originelles essentiellement communautaires. Le pluriel mu'min désigne au départ ceux qui se sont portés garants les uns des autres en établissant entre eux un pacte de sécurité mutuelle.
Les fidèles.
En cas d'agression et de guerre, et qui peuvent se fier les uns aux autres.
Okay.
Vous voyez ?
Oui.
Donc, jusqu'à maintenant... Vous me suivez, je pense.
Je vous suis très bien, même. C'est très intéressant.
J'espère que c'est presque limpide, je dirais. Vous savez, il suffit de ce qui est bien dans mon métier, il suffit seulement de regarder les textes, de lire les textes.
Okay.
C'est pas quelque chose de bien compliqué. Donc, ce sont les affidés, donc du latin, vous savez. Et là, du latin affidare,
okay,
ce qui signifie promettre, hein, littéralement à qui on se fie pour un mauvais coup, dans un sens, au sens propre et ancien du mot fides, foi. Et tout comme le verbe arabe amana, dont mu'min est le nom du sujet. Donc, là, effectivement, on voit que dans un passage coranique, Dieu est appelé lui-même al-mu'min. Ce ne saurait être traduit par le croyant, vous vous en doutez. Cela signifie qu'il est le garant de la sauvegarde individuelle et collective. Dieu, mu'min, garant, est amplifié par un autre terme, mu'aymin, dans le Coran, qui en est une redondance. Donc, toujours dans la sourate 59, verset 23, cette fois.
Okay.
Donc, il faut souligner que nous retrouvons dans le Coran cet usage premier du verbe « amana », au sens de se fier les uns aux autres. Il est dit que le prophète se fie au mu'minoun. « Yu'minu lil mu'minin ». Voilà ce que dit le Coran.
Alors, c'est ça, exactement.
Se fiera point.
Dans le fond, Madame Urvoy, guide-nous dans le droit chemin. C'est le 1.6, si je ne me trompe pas, dans le nombre de versets.
Oui, c'est ensuite... Mais alors qu'il ne se fiera point à ceux qui restent en arrière et trouvent des prétextes, là j'explique le Coran,
okay,
des prétextes pour ne pas engager leurs biens et leurs personnes dans le combat sur le chemin de Dieu. Sourate 59, versets 61 et 94. Les affidés sont une umma unique à l'exclusion des autres hommes, dit le début de la constitution de Médine. Umma veut dire d'abord groupe ou groupement humain, en un sens neutre. Ici, il ne désigne pas un groupement ethnique ou tribal, mais dans le cadre de l'Arabie d'alors, une confédération entre le groupe de Quraïchites Mekwa, nouveaux venus à Médine, et les différents clans et tribus de la zone de Médine, dont la liste est fournie par la Constitution, par ce document. C'est une confédération de nature politique, voilà. Je voulais en arriver à cela. C'est une confédération de nature politique soudée par l'adhésion au prophète d'Allah.
Oh.
Elle se définit...
Attention, Madame Urvois, là, ici, là, on mélange politique et religion, c'est mauvais, là.
Oui, j'y peux rien. C'est la lecture de la Constitution qui dégage cette idée. Donc, elle se définit, oui, et se distingue donc par le fait qu'elle est exclusive de tous ceux qui n'y ont pas adhéré. Vous voyez,
oui.
Et là, ça se referme. La finalité de ce souci d'organisation est de garantir l'efficacité de l'effort de guerre commun. Celui-ci est exprimé au tout début de la charte par le mot « jihad ». Plus loin, ce terme sera précisé par l'expression « le combat sur le chemin d'Allah ». Une réglementation stricte dans un luxe de casuistique fait qu'un affidé peut échapper à une sanction même s'il est coupable, si la victime est étrangère au groupe. Cette solidarité est d'abord un réflexe de survie du groupe. C'est pourquoi l'islam appellera ce groupement humain « Oumma ». Par commodité, nous retiendrons ce matin la notion de cité en tant qu'elle désigne la communauté des personnes et les institutions qui en organisent la cohérence et l'unité. La Oumma revêt des sens à résonance religieuse qui ne sont pas toujours apparents en langage occidental. C'est bien là le problème. Cette cité, la cité islamique, s'articule dans cette solidarité fraternelle, primitivement la fraternité de lutte ou de combat, devenue très vite le ciment d'une communauté qui rassemble d'abord des musulmans et secondairement à l'occasion des juifs et des chrétiens, voire d'autres humains. Comme telle, elle assume auprès des musulmans une fonction maternelle, fort bien inspirée par l'étymologie même du mot « umma ». Dans « umma », il y a « umm », mère. Ainsi, ce n'est pas un hasard si lorsque le Coran dit « les croyants sont seulement des frères », sourate 49, verset 10, il utilise une particule grammaticale « innama » qui comporte un sens exclusif, mais aussi un effet amplificateur qui dynamise cette phrase nominale en arabe. Elle est à mettre en perspective avec une autre particule, illa. Illa, c'est l'exceptif du cri monothéiste. Il n'y a point de divinité sauf Dieu. La ilaha illallah, qui charge la phrase nominale ici, qui est négative, d'un exclusivisme farouche. Dans les deux cas, nous avons bien plus que des procédés, mais de véritables stratégies stylistiques qui visent un effet et un résultat commun, qui est la mise en valeur de l'aspect absolu et l'impact catégorique dans l'une et l'autre affirmation. Et là, je me permets de citer un commentateur.
Aucun problème, allez-y.
Alors, ce commentateur, Al-Razi, affirme que la particule innama est là pour signifier la restriction. C'est pour ça que je voulais le citer.
Okay.
Dans Al-Razi, pour commenter ce verset, il dit elle signifie la restriction, qui signifie, et je cite, « pas de fraternité sauf entre musulmans ». En effet, ce même verset 49-10 évoque le devoir pour le croyant de réconcilier les musulmans divisés, et son contexte montre qu'il est fait appel à la solidarité qui doit exister entre ceux-ci. Or, le Coran est perçu comme la parole de Dieu lui-même en personne, et directement dictée au prophète. Et lorsque un savant comme Jacques Jomier s'interroge, l'action peut-il être étendue de façon plus large à « les musulmans ne sont frères qu'entre eux » Eh bien, la réponse est tout de suite, je lui donne tout de suite la réponse. Chez ce commentateur, c'est certainement le cas, puisqu'il explique son interprétation à l'aide de prescriptions légales concernant l'héritage, lesquelles évacuent totalement la fraternité entre un fidèle et un musulman, du fait que celui-là ne peut hériter de celui-ci. Un autre trait caractéristique, le Coran rappelle à maintes reprises aux croyants, vous êtes la meilleure communauté qui ait été produite pour les hommes. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et vous croyez en Dieu.
Ok.
Hein? Ouais, Sourate 3, verset 110. Partant de là, l'islam a considéré la supériorité de la communauté des croyants comme le premier ciment entre eux. Ils ont pour signe distinctif le discernement entre la croyance et l'infidélité, le bien et le mal. De l'invincible affirmation de l'unicité de Dieu dérive le sens très ardent que possède le musulman de l'unité qu'il forme avec ses frères dans la même foi. Un père Abdeljalil, lui-même ancien musulman, expliquait que leur première qualité, qui est la foi en un Dieu unique, comporte devoir et droit. Et il dit, ils se doivent assistance et solidarité. Et ils sont dans leurs droits lorsqu'ils portent la foi islamique en toute terre qui n'est point domaine de l'islam. Celui, en tout cas, qui a analysé les implications de cela, est sans doute lui gardé dans sa cité musulmane. Il a bien montré comment ce lien communautaire était religieux pour chaque membre et pour tous ensemble, quel que soit le degré d'instruction et de formation de chacun. J'ajoute qu'il fixe les conditions et les règles de vie d'ici-bas et de l'au-delà. Tout est donné en un tout, mais l'islam le pénètre et l'anime jusqu'au moindre détail. C'est le peuple de Muhammad, la Umma, la nation pour laquelle, dit le hadith, le prophète intercède et qui entend garantir à chacun de ses membres les conditions optimales en cette vie et, si les croyants sincères, la rétribution dans l'au-delà. Il nous faut préciser aussi que cette communauté conditionnée et soudée dans le même idéal religieux avec le prophète comme intercesseur n'est nullement comparable à l'Église en christianisme qui forme un seul corps, bien sûr, dans le Christ, car il s'agit ici d'une communauté concrète et non d'une communion mystique. Voilà, monsieur. Je ne sais pas si j'ai le temps encore
de
vous parler de cette...
Madame Urvois, c'est pas compliqué, je suis suspendu à vos lèvres. C'est très, très intéressant. J'ose même pas parler pour la simple et bonne raison que vous me donnez. Ce que mon cerveau fait en ce moment, là, c'est qu'il emmagasine ce que vous me donnez comme information.
J'espère que je ne vais pas trop vite, mais comme
non,
vous,
pas du tout. Vous expliquez très bien.
Je ne voudrais pas occuper tout le temps de votre émission.
Non, du tout. C'était prévu juste pour vous.
Bon, je vous en prie. Donc, cette fratrie a un lien d'unité, en tout cas, spécifique, qui est le livre. C'est ça. Donc, ce qui distingue cette communauté-là des autres, c'est qu'elle a un livre, le Coran, incréé et éternel, selon la doctrine orthodoxe. Ce livre guide la communauté. Il la protège de l'erreur, du fait de l'accord unanime des croyants autour de lui, accord qui ne peut être que véridique.
Corrigez le tir, Madame Urvois, si vous êtes d'accord avec ce que je vais vous amener. Peut-être comme parallèle boiteux, si je peux dire, ça me donne l'impression que le Coran est très élitiste, est prône, un petit côté hitlérien dans tout ce qu'on nous amène depuis le temps. Je sais pas, est-ce que je me trompe?
C'est-à-dire, je n'aime pas beaucoup, donner des qualificatifs modernes d'une histoire très douloureuse du monde moderne à ces valeurs,
oui, je comprends.
Les valeurs des musulmans. C'est pas une question de faux ou vrai, mais là c'est une question de nuance.
Okay.
Je le dis souvent d'ailleurs, le Coran c'est quelque chose qui contient tout. Il contient les bons versets, il contient les mauvais versets, et on a tout le panel, si vous voulez, du bien et mal. Et donc dire que c'est hitlérien comme ça directement, ce serait quand même abusif.
Okay.
Parce qu'à ce moment-là, c'est très facile après pour un musulman de nous dire, mais enfin, regardez tel et tel verset, c'est quand même de l'amour, de la miséricorde, etc.
Okay.
Vous voyez, ce n'est pas exactement cela. C'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus complexe à saisir le phénomène coranique. Je préfère analyser, moi, le texte coranique de façon systématique pour en comprendre un petit peu les mécanismes, les réflexes.
Ok. Okay.
Et, donc, en tout cas, pour tel qu'il se présente auprès de cette communauté, il se trouve que s'en retirer, c'est se condamner à l'ignorance. Voilà, pour un musulman. C'est celle-là même, cette ignorance des Arabes d'avant l'islam. Et la puissance de ce livre, d'ailleurs, est faite d'un sentiment fort d'appartenance, d'une solidarité étroite, dont la manifestation la plus claire réside dans l'accord de tous.
Madame Urvois, via le live@rockick.com, les gens nous posent des questions. Est-ce que vous me permettez de vous en poser quelques-unes?
Oui.
On nous demande ici, est-ce que, mais l'islam, là, dans le fond, là, est-ce que, est-elle au moins une doctrine totalitaire? Est-il?
Est-il totalitaire?
Oui.
Non, il est exclusiviste. C'est plutôt...
Okay.
Il faut le voir comme cela. Il est exclusiviste parce que c'est seulement à l'intérieur même de la Oumma, tout ce qui est musulman est évidemment est valorisé. Et ça, on a compris pourquoi à l'instant. Parce que dès sa genèse, il s'est constitué de cette façon. Et si vous voulez, les bases de cette communauté sont des bases qui sont exclusivistes aussi. Mais on ne peut pas dire totalitaire. Tout groupement est totalitaire à l'égard de notre groupement. Vous prenez n'importe quelle secte et elle sera totalitaire à l'égard des autres sectes.
Hégémonique alors?
Pardon?
Hégémonique alors?
Oh, hégémonique, je ne sais pas. Vous aimez bien les mots qui frappent.
Vous savez...
Voilà. En tout cas, cette fratrie des musulmans est une sélection du peuple appelé. Hein. C'est surtout cela. Et en cela, il ressemble beaucoup au peuple élu. En judaïsme. Et donc cette fratrie est la sélection du peuple appelé et une garantie pour ce monde et pour l'autre. Elle est un état, un statut juridique surtout, directement voulu et décrété par Dieu. Le Coran donc ne va pas manquer une seule occasion pour le signifier aux croyants.
Ok.
Voyez donc le sentiment le plus profond qu'inspire cette fraternité au cœur de chacun des siens est la certitude, non d'une valeur individuelle, mais de la valeur absolue de cet état de croyant où Dieu l'a placé, état qui lui assure pour cette vie les avantages d'un peuple, le meilleur qui ait jamais surgi parmi les hommes, et pour la vie future, s'il est fidèle, la récompense promise par son Seigneur.
Mais
et ce qui... Oui, monsieur.
Je m'excuse, dites-moi, pourquoi... Pourquoi sent-on tant d'agressivité? Parce que avec aussi Anne-Marie Delcambre, qui était justement sur nos ondes maintenant, qui a été remplacée par quelqu'un d'autre, justement oui. Pour nous parler du Coran. Pourquoi sent-on autant oui, c'est vrai qu'il y a des messages d'amour, des messages de paix à l'intérieur, justement de cette station de. Dans le fond, il faut savoir exactement pourquoi qu'il y a de la violence justement dans le Coran. Pourquoi?
Mon Dieu, si je peux me permettre, personnellement, je pense réellement que cet aspect définitif du Coran vient du fait que le prophète arabe a conjugué à merci, si vous voulez, la prophétie et cette quête du politique. Voyez? Or, pour faire réussir un projet militaire et politique, eh bien, ça ne se fait pas dans la douceur, vous savez. Il y a une contrainte, il y a la guerre, il y a tout ce qui va avec pour pouvoir imposer. Et ça fait que après, vous êtes face à une communauté, une umma qui est très cohérente. Parce qu'elle a participé à cet effort-là, l'effort de guerre précisément. Elle est ombrageuse ou agressive, mais face à tous ceux qui lui sont étrangers. C'est pas seulement le fait que, à tel moment de son histoire, elle va se révéler différemment.
Ok. Non, vous répondez à la question, mais c'est toujours aussi... Est-ce que l'on pourrait dire, Mme Urvois, et là, je sais qu'on tombe pas non plus nécessairement dans ce que vous enseignez, mais de voir certains groupes religieux de reprendre les versets qui font leur affaire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des groupes qui font exprès de choisir bien quelques parties, quelques sourates, qui risque de choquer davantage, je sais pas, j'essaie de comprendre,
oui,
d'analyser comme il faut, justement, leur façon de fonctionner.
Non, le problème, c'est ça, le problème. Le problème du Coran, c'est que effectivement, il y a des versets de paix, il y a des versets de guerre, il y a des choses agressives, il y a des versets moins agressifs, il y a des versets de mansuétude, etc. Le problème, c'est que, étant donné que ce texte coranique, on ne peut pas faire un tri dedans, hein, par exemple, que parce qu'il est la parole de Dieu dans sa matérialité descendue sur les anges, voilà, etc. On ne peut pas apporter une contradiction. On ne peut même pas critiquer le texte. Donc, privé de cette latitude de critique du texte lui-même, eh bien, on est obligé, le croyant est obligé de croire à tout le Coran, à tout ce qui contient le livre lui-même.
Okay.
Ils appellent ça Bayna Dafatayn, c'est-à-dire entre les deux couvertures du livre lui-même. Tout ce qui est contenu est parole de Dieu, donc elle est intouchable. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait que tous les musulmans qui voudraient réformer le texte, qui voudraient adapter le texte à la modernité, ben, se heurtent à ce dogme islamique du Coran, parole de Dieu dans sa matérialité. Du coup, ou bien ils sont assassinés, uh-huh, ils sont exécutés pour apostat, puisque apostat, dans le délit, dans le crime d'apostasie, sont inclus évidemment le reniement des parties du Coran. Donc, bien, ils sont obligés à s'exiler. Et ce qui fait que, depuis 14 siècles, on n'a pas réussi à avoir un courant libéral qui autoriserait, qui permettrait une critique du texte, qui permettrait,
exact,
également une modernisation même de la religion islamique elle-même.
Tout à fait.
Puisqu'elle repose sur un texte qui, lui, est immuable. C'est dans le fixisme que tout doit se passer.
Parce qu'on le voit dans la majeure partie des attentats X, Y, Z, là, excusez-moi, là, mais on voit que il n'y a jamais de sortie en règle de la part de certains groupes disant « Non, 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 on n'est pas d'accord avec ça. Il faudrait peut-être aussi, oui, changer certains passages dans le Coran qui... Et oui, oui, effectivement, agressif ou a des tendances ou a des nuances à l'intérieur du Coran. C'est ça que je comprends pas.
Oui, justement, je reviens à ce que je vous disais.
Oui,
étant donné que tout est sur le même plan, hein, du point de vue dogmatique, tous les versets sont sur le même niveau d'exécution, je dirais, eh bien, n'importe quel musulman peut aller se servir dans les versets les plus violents. Et ça vous donne la description que vous dites ici.
On a,
c'est ça le problème. Ce que demande, par exemple, quelqu'un comme Mahmoud Taha, le Soudanais qui a été pendu en 83.
Oui.
Eh bien, lui, il pensait que maintenant le message, il y a un second message à insuffler à l'islam. Et il a écrit un livre appelé Le second message de l'islam. Et pour résumer très vite sa doctrine, sa théorie, c'est que l'islam s'est achevé dans un islam dans son aspect politique parce que c'était l'islam de Médine. Et Médine, c'est la société islamique, l'État islamique qui repose uniquement sur des principes politiques. Donc, d'expansion, de guerre, etc. Et selon Taha, lui, il pense que toute la partie mécoise peut inspirer, oui, un nouveau message qui serait plus spirituel, mais surtout qui serait débarrassé de tout ce qui est politique, c'est-à-dire ramener la religion du domaine public et politique au domaine spirituel et privé.
C'est sûr. Alors on pourrait dire ici, à ce moment-là, Madame Urvoy, que ce serait expansionniste.
Non, si on le ramène à la chose, à la compréhension, à une religion qui serait du domaine personnel et privé, eh bien, elle n'est plus expansionniste. Comment voulez-vous ? Elle n'a pas besoin de s'étendre.
Ok.
Puisque c'est l'affaire de chaque homme au fond de son cœur. C'est une religion qui est spiritualisée à ce moment-là.
Ben, Alors, si non, j'emploie ce mot-là parce que je me dis qu'on essaie de convertir à gauche et à droite ici, juste au Québec, par exemple, Mme Urvoy.
Oui.
On a l'impression des fois qu'ils essaient de convertir.
Ils
essaient d'imposer leur façon de fonctionner.
Bien sûr, les musulmans, mais c'est un devoir d'abord, parce qu'ils élargissent ainsi le champ de la Oumma et également le domaine de l'islam. Mais n'oubliez pas que dans le Coran, il est dit, vous êtes le peuple le meilleur qui ait jamais surgi parmi les hommes. Et donc...
Vous voyez, vous mettez... Il y a quelque chose qui vient de m'éclairer là, ici. Alors, ce serait une religion impérialiste.
Vous convertissez en langage moderne ce que eux ils ont dit avec leur langage dès la charte de Médine.
Ok.
Bien sûr, impérialiste, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas un monde à islamiser.
Ok. Et sur la théorie de Madame Delcambre, la schizophrénie de l'islam, qu'est-ce que vous en pensez?
Oh ben là vous me posez une vous me posez une colle, Madame Delcambre a expliqué bien mieux que je ne pourrais le faire moi dans son livre sa position.
Ok.
Ça serait glosé de façon de seconde main le ce qui est bien exposé, l'exposer plus mal encore de ma part. Non, c'est pas.
Mais vous croyez pas que peut-être d'avoir votre opinion pourrait justement relancer un peu le débat?
Ah mais mon opinion, mais c'est celle que je viens de d'exposer.
D'accord.
Le Coran et son écriture et plus Mohammed sont comme beau modèle indiqué par Dieu dans sa révélation, eh bien font que la Oumma islamique ne peut pas être autrement que ce qu'elle est.
Ok.
Madame, c'est clair.
Oui.
Voilà.
Madame Urvoy, je vous remercie. C'était très intéressant, comme je vous le disais au courant de notre entretien. Et nous espérons vous reparler, enfin, si c'est possible, dans un avenir proche.
Je vous en prie, monsieur, avec plaisir.
Merci, Madame Urvoy.
Au revoir, monsieur.
Une belle fin de journée.
Au revoir, monsieur Trépanier.
Alors, c'était Marie-Thérèse Urvoy que vous venez tout juste d'entendre. C'est simple, hein? Toujours percutant, mais elle n'a pas voulu répondre, Chris.
Non, il y avait encore quelques questions ici, là, ouais. Donc...